Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les chiffres tuent les soins. Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture. L'année 2025 aura été difficile pour notre système de santé. Départ important de médecins, démissions successives des ministres Lionel Carman et Christian Dubé. Au cœur de ces déboires, un désaccord fondamental sur les indicateurs de performance et les moyens de les atteindre. Les gestionnaires répètent un mantra apparemment évident. On ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Appliqué à la santé, ce dogme devient absurde. Selon cette logique, vous n'améliorerez pas votre santé en adoptant simplement une diète méditerranéenne et en bougeant plus. Il vous faudrait d'abord une montre GPS, puis calculer méticuleusement vos calories, vitamines et nutriments pour gérer votre santé. Le problème est bien connu. On finit par gérer ce qu'on peut facilement mesurer en délaissant l'essentiel. Compter les patients vus en 4 heures est simple. Mais comment mesurer la compétence d'un soignant, la sécurité des soins prodigués, la qualité de l'écoute et du conseil? C'est comme prétendre qu'il est plus facile de gérer sa santé avec des chips, dont tous les nutriments sont inscrits sur le sac, qu'avec des fruits et légumes. Face à la complexité de la santé, la tentation est de tout découper en petites parties mesurables, puis de recoller ces fragments en espérant reconstituer une personne. Un roman célèbre raconte l'histoire d'un scientifique qui a déjà tenté l'expérience. Il s'appelait Frankenstein. Après 3 décennies dans l'enseignement médical, je constate que la compétence s'observe bien plus facilement qu'elle ne se mesure. Notre système top-down, ultra-centralisé, confie les décisions à des gestionnaires généralement éloignés des soins et ignorants des réalités variables selon les régions. Privés d'observation directe, ils se rabattent sur des statistiques qui deviennent leur seule réalité. Cette obsession chiffrable détourne des budgets massifs vers des armées de fonctionnaires produisant des données plutôt que vers les soignants qui servent la population. En 1956, déjà, le chercheur V.F. Ridgway publiait un article sur les conséquences dysfonctionnelles des mesures de performance. Près de 70 ans plus tard, difficile d'imaginer que le ministère et Santé Québec, créé précisément sur le concept d'indicateur de performance, fasse marche arrière. On peut néanmoins espérer que la nouvelle ministre, grâce à son expérience comme soignante, ait développé une vision du système de santé qui dépasse une simple série d'indicateurs. Oui, il faut gérer et améliorer notre système. Mais cela exige un changement de culture axé sur la compétence clinique, la sécurité des soins, la bienveillance et la performance globale et multidisciplinaire, tous des concepts difficiles à mesurer, justement. C'était « Quand les chiffres tuent les soins ». Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir.
Des DPJ exigent des futures familles d'accueil qu'un parent reste à la maison. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Pour les futures familles d'accueil, les directions de la protection de la jeunesse des PJ régionales exigent que l'un des parents reste à la maison à temps plein pour s'occuper des enfants de moins de 5 ans, une condition qui ne fait pourtant pas partie des critères établis par le ministère, a appris Le Devoir. Une pratique dénoncée par la Fédération des familles d'accueil du Québec qui estime que cela nuit au recrutement. Vous ou votre conjoint ou conjointe, s'il y a lieu, pouvez tout à fait conserver votre emploi et assumer pleinement votre rôle de famille d'accueil. Toutefois, l'un des parents doit rester à la maison si vous accueillez un enfant de 5 ans ou moins. Peut-on lire dans la section destinée aux futures familles d'accueil sur le site web du CISSS de la Montérégie Est. Aux questions du devoir, on affirme qu'il s'agit d'une balise propre à l'établissement et non d'un critère exigé par le ministère. En effet, sur le site du gouvernement du Québec, il est clairement indiqué que la personne peut travailler à l'extérieur de la maison. Cette pratique, en vigueur depuis plusieurs années au CISSS de la Montérégie Est, repose sur des considérations cliniques liées aux besoins des jeunes enfants accueillis en famille d'accueil, explique le CISSS. Elle vise à assurer la présence stable d'au moins une figure importante dans le milieu de vie. Mais elle est appliquée avec souplesse, ce qui permet le recours à des remplaçants de confiance. Par ailleurs, 6 établissements sur 16 confirment au devoir demander qu'une personne soit à la maison à temps plein pour l'accueil d'enfants de moins de 5 ans, une condition appliquée et interprétée différemment d'une région à l'autre. Nous n'exigeons pas que les personnes démissionnent de leur emploi, mais on tient à être transparent sur le fait que l'accueil d'enfants de 0 à 5 ans demande une disponibilité bien plus grande que pour des enfants d'âge scolaire, explique le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous nous assurons de bien comprendre le plan d'organisation des familles si celles-ci souhaitent conserver leur emploi. Par exemple, une grand-mère peut offrir du soutien à la maison ou autre. Au CISSS de Chaudière-Appalaches, on souligne que les familles accueillent souvent plus d'un enfant et que les arrivées peuvent survenir à tout moment. Peu d'emplois permettent une telle flexibilité, avec des entrées et des sorties répétées sur des périodes de quelques mois, explique le CISSS, qui précise que la durée pendant laquelle une présence constante est requise peut varier selon la capacité d'adaptation de l'enfant. Nous n'exigeons pas que les personnes démissionnent de leur emploi, mais on tient à être transparent, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le CISSS reconnaît, comme celui de Lanaudière, que ces exigences représentent un défi pour le recrutement, mais il affirme que cela permet de mieux répondre aux besoins des enfants. Manque de place en garderie. Mais pourquoi les familles d'accueil ne peuvent-elles pas, comme tous les autres parents, envoyer leurs protégés dans un service de garde ? Nous souhaitons que les enfants puissent d'abord s'adapter à leur nouvel environnement avant de fréquenter un milieu de garde, explique le CISSS de Chaudière-Appalaches. La majorité de ces enfants sont vulnérables et ont vécu des expériences traumatiques importantes. Leurs capacités et leurs besoins ne sont pas comparables à ceux d'enfants ayant évolué dans un milieu sécurisant et stable. Les établissements concernés évoquent surtout le manque de place en garderie pour expliquer cette demande. Plusieurs enfants n'ont pas accès à une place en garderie ou ne sont pas en âge d'intégrer un milieu de garde, explique le CISSS de l'Outaouais. Une présence permanente assure donc que l'enfant bénéficiera d'un environnement stable. D'autres soulignent que l'inscription à un service de garde peut être plus compliquée car elle nécessite l'autorisation des parents biologiques. Une pratique dénoncée. Ces explications ne trouvent pas grâce aux yeux de la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, Mélanie Gagnon, qui dénonce cette pratique depuis un certain temps auprès des instances appropriées. Bien sûr, l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial et la stabilité est essentielle. Mais cette stabilité-là ne doit pas reposer uniquement sur l'isolement du parent à la maison. Un enfant placé devrait bénéficier de la socialisation et avoir une vie la plus normale possible au sein de sa famille d'accueil, plaide Mme Gagnon. Elle rappelle que les familles d'accueil sont des familles normales qui, comme la majorité des ménages québécois, doivent concilier travail et vie de famille face au coût de la vie. Non seulement ces pratiques privent des enfants de foyer aimant, mais elles s'inscrivent également dans un système qui peut décourager l'engagement et créer un manque de familles d'accueil, déplore-t-elle. Pour corriger cette inégalité et soutenir les familles, il est impératif d'envisager des solutions concrètes comme la réservation de places en CPE pour les enfants en famille d'accueil ou l'accès aux prestations parentales pour toutes les familles d'accueil. Harmonisation des pratiques. les établissements ont le droit d'imposer des critères d'évaluation spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des usagers, tant qu'ils respectent les orientations ministérielles Réponse Santé Québec. On leur demande toutefois d'être vigilants quant à l'ajout d'objets d'évaluation appliqués de façon systématique, lorsque les exigences ne sont pas explicitement prévues aux orientations ministérielles. Santé Québec souhaite par ailleurs harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. On prépare à cet effet un portrait national de ce qui est imposé dans les différents établissements, critères qui seront analysés sur la base des causes et des répercussions. Par la suite, on pourra, au besoin, apporter les clarifications nécessaires afin d'assurer une application cohérente et conforme aux orientations ministérielles. C'était « Des DPJ exigent des futures familles d'accueil qu'un parent reste à la maison », un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
Cuba dans l'étau américain. Le caractère odieux de l'impérialisme de Trump ne sauvera pas le régime castriste. Texte publié dans Le Devoir du 16 février 2026. La dictature cubaine est dans les cordes. Le président des États-Unis affirme qu'elle est, citation, « sur le point de tomber ». Sans le pétrole vénézuélien, elle ne pourra pas survivre, prédit-il, fin de citation. Trump n'est pas le premier président américain parlant du régime cubain à squatter et même prédire sa chute. Fidel Castro a pris le pouvoir il y a 67 ans. Depuis, pas moins de 12 présidents se sont succédés à la Maison-Blanche. Castro, mort il y a 9 ans, et ses deux successeurs, son frère Raoul et l'actuel président Miguel Díaz-Canel, ont esquivé toutes les tentatives de les renverser. Le régime a survécu à la fin de la guerre froide, à celle de l'aide soviétique massive et à la disparition physique de son leader Maximo. L'histoire, entretenue par la mystique héroïque de la Révolution, donne à penser qu'il s'agit d'un régime capable de traverser toutes les épreuves, qu'il s'agisse des rébellions intérieures, celles de juillet 2021 ont été durement réprimées, ou des pressions extérieures. Pour autant, cette fois, l'épuisement paraît réel et les menaces très sérieuses. Le tourisme, ultime bouée de sauvetage, s'est effondré depuis la pandémie, et des transporteurs comme Air Canada suspendent le service faute de carburant. Les images des reportages de terrain à travers le pays, comme celui en trois remarquables articles fleuve du reporter Jean-Philippe Rémy et du photographe Lucien Long dans Le Monde, des 28, 29, 30 janvier, évoquent une sorte de fin du monde, un régime arrivé au bout du rouleau, un pays à l'arrêt, et une population en mode de survie quotidienne, pas à la révolution contre l'impérialisme. Bien qu'une évaluation fiable de l'opinion publique soit très hasardeuse à Cuba, où le pluralisme politique, hors la loi, est exclu par principe, il y a fort à parier que non seulement le régime est détesté par une majorité de la population, mais aussi qu'une part non négligeable de cette population, un peu comme en Iran, en est venue à espérer une intervention extérieure pour en finir avec cette épreuve interminable. Non pas qu'une telle « solution », entre guillemets, réelle ou imaginaire, possibilité ou simple fantasme, fasse l'unanimité. Au contraire, elle doit provoquer une profonde blessure patriotique et de vifs désaccords. Entre la méfiance envers le géant impérialiste voisin et l'écœurement envers un régime répressif et mensonger, l'écartèlement est sûrement douloureux. Indicateur terrifiant, l'exode des Cubains et des Cubaines qui votent avec leurs pieds. Au cours des 4 dernières années, quelque 2 millions de personnes auraient quitté le pays, la population passant de 11 à 9 millions, une épouvantable saignée qui vide le pays de ses forces vives et constitue le désaveu le plus cinglant du régime. La célèbre bloqueuse Yoani Sanchez, dont le site indépendant Génération Y aura bientôt 20 ans, affirme que l'apathie et le silence ambiant ne signifient surtout un appui au discours officiel. L'absence de rébellion ouverte, avec des exceptions ponctuelles comme celle de juillet 2021, est un produit de la fatigue, de la peur et de l'intimidation entretenue par des organismes d'État comme les omniprésents comités de défense de la Révolution. L'agressivité de la politique étrangère américaine, spécialement depuis un an, et l'opposition croissante dans le monde aux menaces et aux agressions trumpiennes, qu'on a vu se déployer efficacement dans l'affaire du Groenland, ne constituent en 2026 ni une excuse ni une chance pour le régime. L'origine du malheur cubain est plus endogène. Régime corrompu, répressif, économiquement mortifère, qu'exogène, menaces et embargos américains. Le mot « blocus »,« bloqueo » en espagnol, pièce centrale de la propagande cubaine, était abusif pour désigner le régime d'embargo économique appliqué de façon variable par Washington depuis 60 ans, allègement sous Obama, retour musclé sous Trump. Embargo contourné depuis un demi-siècle par plusieurs partenaires commerciaux de la Havane, le Canada dans les mines, l'Espagne et l'Allemagne dans le tourisme. Il se peut cependant qu'en 2026, cette évaluation ne tienne plus. Si Washington arrive à bloquer littéralement les livraisons de pétrole et spécifiquement celles du Venezuela et du Mexique, par la persuasion ou la menace, si ce n'est par des interceptions physiques en mer, là, on se rapprocherait d'un véritable bloqueo, et la pression sur l'économie cubaine pourrait vite devenir dévastatrice. Mais Cuba n'est pas seulement vulnérable à cause du blocus énergétique ou de sa crise économique chronique, consubstantielle au régime communiste. Son prestige et ses alliances se sont effondrés. Désormais, l'appel à la solidarité anti-impérialiste sonne creux. Caracas et Mexico semblent céder au chantage américain et s'éloigner de la Havane. Lula, au Brésil, se contente de condamner le blocus du bout des lèvres. Une certaine gauche internationale ne veut plus défendre un régime dictatorial auquel naguère on pardonnait tout. Au-delà, il y a peut-être aussi une reconnaissance de facto par les deux autres ogres impérialistes de la fameuse doctrine des zones d'influence. La Russie a promis une aide financière à la Havane, mais sans grande conviction. La visite à Pékin la semaine dernière du ministre cubain des Affaires étrangères n'a abouti qu'à quelques belles paroles. Au début des années 1990, ce régime avait survécu à la chute de l'URSS, imposé à son peuple la « période spéciale en temps de paix », fin des guillemets, puis repris du mieux à compter de 1999 grâce au pétrole d'Hugo Chavez. Et puis, il y avait encore le vieux Castro, son mythe, ses appuis dans la population, un État un peu moins corrompu, un tourisme abondant. L'ironie, c'est que cette fois, même le caractère odieux et cruel de l'impérialisme de Trump ne fait plus une cible morale efficace pour le castrisme et ses ultimes soutiens. Fin de cette chronique de François Brousseau, titrée « Cuba dans l'étau américain », publiée dans Le Devoir du 16 février 2026.
Juriste mobile pour une justice près de chez vous. Un texte de Lila Dussault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse. Maître Sacha Gritchevic le Sage veut adapter la justice aux gens qui en ont besoin. 6h39, c'est le temps qu'aurait pris Maître Sacha Gritchevic le Sage pour se rendre de Montréal à Acton Vale en vélo. Oui, la Montréalaise a fait le calcul. Elle s'est résolue à conduire pour offrir ses services gratuits à 127 km de chez elle. Ça a été un choc, confirme l'avocate de 29 ans, mais un choc salutaire. Près de 3 ans après avoir passé son barreau, maître Sacha Grichevic le Sage a trouvé ce qui l'anime, amener la justice à ceux qui n'ont pas les moyens de consulter un juriste. InfoJustice, auparavant les centres de justice de proximité, déploie depuis l'automne des services directement dans quelques communautés vulnérables du Québec. Maître Grichevic le Sage est donc l'une de ces juristes mobiles qui ont choisi de sortir de leur bureau et de leur zone de confort pour offrir de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et s'il faut parcourir la glissante route sans cesse vers Acton-Vale dans la première tempête de neige automnale, ainsi soit-il. Je me lève le matin pour un emploi qui me passionne, qui me donne la drive. Chaque journée est différente. Le sourire des gens, le plaisir que ça me donne de sentir que je les aide à reprendre le contrôle de leur vie. C'est ma paix tous les jours. Maître Sacha Grichevic le Sage, avocate. L'humain avant tout. Enfant, la jeune Sacha a eu un coup de foudre pour ce que faisait son pédiatre. Je trouvais que ça avait l'air tellement incroyable son métier. À la sortie du cégep, elle commence donc des études en médecine à l'université McGill pour vite déchanter. Finalement, je pense que c'est l'aspect de la relation humaine que j'avais identifié et que j'aimais, analyse-t-elle. Quelques tergiversations plus tard, elle se retrouve en droit à l'Université du Québec à Montréal. Après un passage au directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, puis à l'aide juridique, elle tombe amoureuse de la justice de proximité. Puis vient cette occasion avec Juriste Mobile, une recherche-action financée notamment par le Fonds d'études notariales. Quand je suis rentrée en droit, c'était pour trouver une façon de redéfinir l'accès à la justice et d'aider les gens, explique-t-elle. Désert juridique. Nous retrouvons Maître Grichevic le Sage un lundi matin de novembre dans les locaux de l'organisme Ressources Femmes de la région d'Acton en Montérégie. Ce jour-là, l'avocate offre à une dizaine de femmes une formation sur les droits en matière de violence conjugale. Dans l'après-midi, elle enchaînera avec des rencontres individuelles. Sacha a le tour d'animer des ateliers, mais aussi de contrôler les questions pour qu'on ne s'éparpille pas ou que les gens tombent dans leur cas privé, observe Daniel Gay. La retraitée de 69 ans est enchantée de la présence de l'avocate à Ressources Femmes. On est loin de la justice dans la MRC d'Acton, donc ça nous permet de poser toutes les questions nécessaires pour savoir si ça vaut la peine d'aller consulter un avocat et de dépenser son argent, Daniel Gay. La MRC d'Acton a été sélectionnée par InfoJustice en raison du désert juridique qui y règne. Aucune ressource, comme l'aide juridique ou un organisme communautaire dans le domaine, ne s'y trouve. En parallèle, la région rurale a aussi des enjeux de pauvreté, de mobilité, de vieillissement, de littératie. Ça fait longtemps qu'on nous avait demandé si c'était possible de faire venir un notaire ou un avocat pour répondre aux questions des membres, observe Catherine Gazaille, directrice adjointe et intervenante chez Ressources Femmes. Quand elle a été contactée par Maître Grichevic le Sage pour le projet, elle a sauté sur l'occasion. L'offre était trop intéressante pour laisser ça de côté. C'est très, très positif. Catherine Gazaille, directrice adjointe et intervenante chez Ressources Femmes de la région d'Acton. En plus de sa présence à Ressources Femmes, Sacha offre aussi depuis l'automne des consultations 2 fois par semaine à la Corporation de développement communautaire d'Acton. Ses clients n'ont rien à payer. Ils sont recommandés par des organismes de la région ou peuvent s'inscrire eux-mêmes. L'avocate accompagne les Valois sur une panoplie de questions, succession, conflits familiaux, violences conjugales, travail, logement, demande de pardon, etc. Elle ne peut toutefois pas faire de représentation devant les tribunaux. Jusqu'à présent, ses journées sont bien remplies. Oui, il y a des jobs en droit qui sont plus payants, reconnaît-elle, mais il y a aussi des jobs beaucoup plus plates. C'était Juriste mobile pour une justice près de chez vous. Un texte de Lila Dussault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse.
Marraine des enfants défavorisés. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. Un sac à dos neuf, un ensemble de neige, un pyjama pour Noël. Voici ce que reçoivent des milliers de petits Québécois défavorisés grâce au travail acharné de Marraine étoilée, la 3e organisation caritative fondée par Francine Laplante. Depuis 2021, elle mène 3 campagnes annuelles. En vue de la plus récente rentrée des classes, Marraine étoilée a remis 3258 sacs à dos, avec du matériel adapté au niveau scolaire de chaque enfant. Ces jours-ci, la campagne « Un hiver au chaud » bat son plein. On remet des habits de neige avec des tuques, des mitaines et parfois des bottes, explique Francine Laplante. Tout est neuf. Ça donne un sentiment de fierté aux enfants. Sous peu, elle invitera le public à acheter des pyjamas, des paires de chaussettes et des sucreries des fêtes. « Je veux que les gens prennent le temps de magasiner en pensant à l'enfant pour créer une forme de lien. L'an dernier, on a remis près de 3000 pyjamas. » Les jeunes sont principalement identifiés parmi les écoles les plus défavorisées du Québec, les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences et les maisons de la famille. Tous ces efforts sont motivés par sa propre expérience avec la pauvreté. « Je suis le bébé d'une famille de 12 enfants et j'ai connu la pauvreté extrême », témoigne-t-elle. Même si on travaillait fort, on n'arrivait pas à combler tous nos besoins. Ça marque une enfance. Affirmant avoir développé un sixième sens pour détecter les enfants dans le besoin, elle a toujours aidé les organismes qui les soutiennent. Cela dit, en 2021, elle a ressenti le besoin d'en faire davantage. « Dans le passé, j'avais lancé deux autres fondations pour les enfants malades physiquement, mais je considère que les enfants défavorisés sont malades dans leur cœur. Je voulais faire plus pour eux. » En 2002, elle avait lancé la Fondation des gouverneurs de l'espoir, 3 ans après que son fils avait obtenu un diagnostic de cancer à 5 ans et demi. Après avoir organisé des campagnes de financement pour Leucan dès 1998, « J'ai créé les gouverneurs de l'espoir, mis sur pied la première chaire de recherche oncologique pédiatrique en Amérique du Nord et œuvré dans les soins palliatifs à Sainte-Justine. » 12 ans plus tard, elle créait « Née pour vivre » afin de soutenir les adolescents et les enfants atteints d'un cancer qui atteignent l'âge adulte. Contrairement aux enfants malades, c'était très difficile de vendre une cause qui touchait les ados. Je n'ai pas réussi à la faire lever. Elle aurait pu simplement s'impliquer dans une organisation existante, mais il lui semblait préférable de créer ses projets. « Tu ne veux pas avoir 2 Francine Laplante dans une organisation. Je suis une femme très intense, exigeante envers moi-même et envers les autres. » Je cherche toujours comment me rendre le plus rapidement au but. Je voulais mener ma barque pour aider le mieux possible. Propriétaire des 5 fruiteries fraîchement bons dans la région de Montréal, aux côtés de son mari et de son fils François-Carl, qui a survécu à un cancer, elle s'investit 24 heures sur 24 dans son entreprise et son organisation. Quand on n'est pas dans nos fruiteries, on est dans Marraine étoilée et vice-versa. On implique notre famille. C'est naturel pour nous. Ce réflexe d'implication leur vient d'un pacte signé avec la vie. Si elle lui redonnait la santé, on lui promettait de consacrer le reste de notre vie aux enfants. Aujourd'hui, quand on voit nos 3 petits-enfants, des tornades, tout prend son sens. C'était « Marraine des enfants défavorisés », un texte de Samuel Larochelle, paru le 13 novembre 2025 dans la presse.